Est-ce que nos enfants avec des besoins particuliers sont bien accueillis en milieu scolaire? Et vivre dans un CHSLD à 12 ans, ça me semble pas d'allure.
Accès libre.
Bien content de vous retrouver cette fois pour Accès libre. On a travaillé ici et là avec des co-animateurs pour M l'été, mais là, finalement, on se réinstalle pour une émission qui me plaît beaucoup, qui m'est chère au cœur. Et évidemment que chaque lundi, on va essayer de s'intéresser à ces sujets qui vont toucher les gens en situation de handicap, tant côté changement, revendication, que les petits trucs, les besoins, les réalités, les bons coups. Et c'est un peu ce qui va nous tenir occupés jusqu'en juin prochain, si on nous prête vie. Aujourd'hui, on parle du bonheur et des gens vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, de nos enfants avec besoins particuliers en milieu scolaire, d'un enfant de 12 ans qui ne sait pas encore s'il va demeurer sur la Côte-Nord ou au Saguenay, et d'une nouvelle émission sur les ondes de Canal M. Mais d'abord... Monsieur Maurice Bolduc, lequel des invités qui est là?
Ton premier, Monsieur Guimard.
Monsieur Guimond, OK. Salut, Monsieur Claude Guimond.
Oui, bonjour, Monsieur Fortin.
Ah, tu peux m'appeler Luc, il n'y a pas de problème. Ça va bien?
Oui, ça va très bien, et vous?
Good, oui, merci. Il faut juste préciser aux gens qu'on ne fera pas de cachette. Il était 11h28 quand on a su que notre invité de midi ne pouvait pas être avec nous. Donc, voilà pourquoi c'était tentative, comme diraient les Anglos. Mais Claude a bien voulu nous prêter quelques minutes de son temps, lui qui est à organiser les derniers petits préparatoires pour la rencontre politique de ce soir au Centre Saint-Pierre. Claude, qui est directeur général de la Confédération des organismes pour personnes handicapées du Québec. Claude, on a eu confirmation qu'il y aura un candidat pour les quatre formations présentes à l'Assemblée nationale. Ça tient toujours parce qu'on sait que côté environnemental, ça n'a pas tenu jusqu'au bout.
Bien, jusqu'à maintenant, là, présentement, selon mon ordinateur, il est 12h02. Et jusqu'à 12h02, il y a quatre candidats qui ont bien voulu accepter notre invitation.
Qui sont-ils?
Je peux vous les nommer, ouais, si vous désirez.
Ouais.
Pour le Parti libéral, c'est Mme Lucie Charlebois, qui est notre ministre.
Déléguée, oui.
Déléguée, on est très contents de cela. Pour le Parti québécois, c'est Carole Poirier, qui est députée là, d'Hochelaga à Montréal. Pour la coalition Avenir Québec, c'est Marilyn Picard, qui est une nouvelle candidate qui nous vient de la région de Soulanges.
Qui est d'ailleurs dans la même circonscription que Mme Charlebois.
Oui, tout à fait. Donc, il risque d'y avoir un petit peu d'étincelle entre les deux ce soir.
Peut-être qu'on va jeter les gants, on verra.
Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça soit intéressant pour les personnes avec des limitations. Les discussions, il faut qu'ils tournent autour des besoins pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Mm-hmm. Et bien sûr, pour terminer, le Québec solidaire, c'est Benoît Rassette qui sera le candidat qui représentera cette formation politique-là ce soir.
Benoît qui animait Accès libre l'an passé, justement, ici, sur Canal M. Les thèmes abordés, Claude?
Bien, c'est certain qu'il y a, pour on pourrait avoir une multitude, pour une telle soirée, une multitude de thèmes où on aurait des millions et des millions de questions, mais c'est un débat, c'est une soirée électorale qui va durer 2 heures, donc on s'est limité un peu dans les thèmes pour arriver à s'entendre sur 4 thèmes. On va parler du numérique et l'information. On est tout de même en 2018, donc le numérique, c'est vachement important.
Ouais.
On va parler aussi de l'emploi. Qu'est-ce que nos partis politiques ont à dire par rapport à l'emploi? L'accessibilité, qui est un gros chantier, qui est vaste. mais on a structuré des questions là, pour y aller autour du d'accessibilité bâtie et puis finalement la santé, l'accompagnement des personnes handicapées, le soutien à domicile, des choses comme ça.
Ce que je trouve intéressant côté accessibilité, oui, c'est qu'on va aborder les trottoirs, les rues également, donc pas juste les édifices, chose dont on parle pas souvent. Les trottoirs, je trouve que c'est souvent laissé pour compte, donc ce serait intéressant de voir si les candidats ont des choses. Et ce qui est intéressant dans les petites lectures que j'ai faites en préparation de cette rencontre que je modérerai ce soir au Centre Saint-Pierre, rappelons-le, c'est à 18h30, les portes sont ouvertes. Tous et toutes, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez un transport adapté, 20h30, c'est terminé. Que ce soit bon ou pas bon, que ce soit en pleine discussion, on arrête ça à 20h30. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette idée qu'il y a des édifices qui sont construits tous les jours et qui ne répondent pas aux normes de la Charte des droits et libertés du Québec, de un. De deux, le gouvernement va subventionner et continue de le faire des organismes, qu'ils soient communautaires, que ce soit des entreprises privées, alors que leur site web n'est pas accessible et on n'oblige pas ces organismes, alors qu'on leur donne des sous, à se rendre accessibles. Il y a des choses qui doivent être expliquées ce soir et j'espère qu'on va le faire. D'ailleurs, ceux qui ont lu le communiqué que la COFAN a envoyé pouvaient lire que je disais « J'espère que les candidats vont laisser les cassettes aux années 90 et vont nous parler concrètement d'action. » Est-ce que Claude, pour avoir parlé avec les représentants, pas nécessairement les candidats, mais les gens de communication, on a l'impression que les gens vont être préparés où il y a tellement de débats que ça devient difficile puis qu'ils vont le faire à la dernière minute et on pourrait malheureusement presque comprendre.
Ouais. Bien, moi, j'ose espérer que ce sera un débat qui sera concret. Parce que depuis la mi-juillet que la COFAN, on travaille avec les quatre partis politiques pour discuter de ce débat-là. Ils sont au courant des thèmes qu'on veut parler, ils ont eu le temps de faire la recherche. Donc, j'ose croire que tout est en place ce soir pour avoir une bonne discussion et avoir des bonnes réponses aussi à nos questions.
Oui, évidemment, qui dit activité organisée par la COFAN dit il y aura des interprètes sur place pour signer en LSQ.
Tout à fait. Oui, ça, c'est très clair. Puis il va y avoir une captation audio aussi, puis une captation vidéo, donc qu'on pourra, là, dans les prochains jours, pouvoir distribuer ou pouvoir passer sur nos médias sociaux pour s'assurer que les électeurs, les électrices puissent prendre une décision éclairée pour l'élection du 1er octobre prochain.
Ouais, et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il semble, j'espère me tromper, mais les informations que j'ai, c'est que le débat télévisé de jeudi ne sera pas signé ni jeudi, ni les jours suivants. Par contre, celui de ce soir sera capté par la vidéo et sera disponible avec LSQ à l'appui. Donc, si les personnes malentendantes ne peuvent se déplacer, ce besoin-là est couvert. D'ailleurs, Canal M va diffuser sur son site web l'intégralité du débat dans les prochains jours.
Oui, Canal M est un principal partenaire de la COFAN dans ce débat-là, puis on vous en remercie beaucoup.
Ben, ça nous fait bien plaisir et merci d'avoir accepté de nous prêter justement cette belle opportunité d'offrir aux gens un peu partout au Québec l'occasion de savoir ce qui va se dire ou ce qui ne se dira pas. Parfois, ça parle plus fort ce qu'on dit pas que ce qu'on dit.
Tout à fait, M. Fortin.
Bonne journée, Claude. Et,
on se voit ce soir.
C'est ça. Nous, on se retrouve puisqu'on va travailler ensemble pour la présentation de tout ça. Et au risque de me répéter, vous êtes tous et toutes invités. 12-12 rue Panet. Les hostilités. Disons que les échanges débuteront autour de 18h30 pour se terminer à 20h30. Bon après-midi, Claude.
Ben merci. À ce soir.
place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nulle, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies.
Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime.
Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, hautain, lointain, pour que tu sois bien.
Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Petite place ici maintenant, car le temps passe à pas de géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi.
Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça,
pour être à toi.
Magnifique version, Éric Salvaille et Ingrid Saint-Pierre. Ça, c'est tiré du Duo Improbable volume 2. D'ailleurs, un disque qui, lorsque vous l'achetez, fait œuvre de bienfaisance. François Baruel, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de bonheur et je me demandais, avant d'arriver à cette étude qui essayait de mettre en perspective le bonheur chez ceux et celles qui sont atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, avez-vous une définition du bonheur?
Oui, le bonheur, la définition du bonheur pour l'OMS, c'est l'absence de douleur, l'absence
oui,
de maladie,
seulement.
L'absence de... etc. C'est tout à fait... c'est négatif. Ce ne sont que des absences d'éléments négatifs. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas donner une définition du bonheur, du moins, on ne peut pas demander à des enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme d'avoir une définition du bonheur. C'est simplement ce qu'ils ressentent. Donc, on leur a demandé, sur une échelle... On essaye de savoir s'ils sont heureux sur une échelle de 1 à 4, s'ils sont heureux, pas heureux, moyennement heureux ou très heureux. C'est plus simple comme ça, parce que les éléments physiques, les éléments matériels n'interviennent pas, finalement.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'être heureux? Moi, bon, je me souviens d'avoir entendu dans un mauvais film que être heureux ou le bonheur, c'est de ne pas vouloir être ailleurs. Je trouvais que c'était bien, mais c'est encore l'absence de quelque chose.
C'est tout à fait ça.
Mais est-ce que, bon, le TSA est tellement variable, le spectre est tellement large, est-ce qu'on sait d'abord, avant de regarder les résultats, qui on a sondé?
Alors avant, oui, on a sondé. C'est un article que j'ai trouvé dans le Journal international de médecine et qui relate une étude faite au Royaume-Uni, à York et à Manchester, sur 13 285 enfants, dont à peu près un peu moins de 1000 enfants du trouble du spectre de l'autisme.
OK, donc on est allé du côté des... On a exploré les deux tableaux.
Oui, alors les deux tableaux ont été explorés. Et c'est vrai que les tests, ou du moins les échelles pour le bonheur, ont été simplifiées. Donc on a compté, on a demandé aux enfants s'ils étaient très heureux, moyennement heureux, peu heureux ou pas heureux du tout.
Ouais.
Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, bon, alors, c'est aucun critère matériel n'a été utilisé, c'est juste la subjectivité en réalité, c'est-à-dire la sensation personnelle, et peut-être que c'est la meilleure. Il y a aussi l'estime de soi qui a été jumelée à cette étude du bonheur. Parce qu'en fait, ça fait partie de ça.
Ouais.
Et l'estime de soi, de la même manière, on a demandé une échelle. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu t'estimes moyennement, beaucoup ou pas?
Est-ce qu'on a l'idée de l'âge du, disons, de l'enfant sondé en général? Est-ce que...
Ce sont des enfants autour d'une dizaine d'années.
OK. Mmh. Ça m'apparaît des questions assez abstraites pour des enfants de 10 ans.
Est-ce que tu te sens bien? Je ne sais pas. Je crois qu'il me semble que je me souviens qu'à 10 ans, je me souviens de l'estime que j'avais de moi quand j'avais 10 ans. Donc, on peut très bien imaginer. Et ensuite, il y a aussi l'activité sociale et l'exploration du monde. Est-ce, quelle est la tendance, justement, de ces enfants? Est-ce qu'ils ont eu envie? Est-ce qu'ils avaient un rôle, en fait, pro-social, social ou passif?
OK.
Voilà. Et on, tous ces éléments-là ont donné, ont été colligés en plusieurs résultats qui sont assez étonnants. Donc, on a, par exemple, on a 5 groupes. Il y a un tiers des enfants qui ont un trouble du spectre autistique, on va dire TSA, ce sera plus simple.
Ouais.
Ils sont heureux, ils s'estiment, mais ils sont inactifs socialement.
Ok.
Il y a ensuite un autre tout petit groupe de 3%. Lui, c'est, il s'aime un petit peu, ils ne sont pas très actifs, et puis en même temps, ils ne sont pas très heureux. Un autre groupe, le troisième groupe, c'est peu heureux, ils s'aiment peu, et ils ont une activité moyenne. Ensuite, très heureux, s'aimant moyennement et très actif. Alors, c'est très abstrait tout ce que je dis, puis ça fait beaucoup de chiffres.
Ouais.
Et puis enfin, il y a un tiers qui s'adore et qui sont très actifs et qui sont très heureux.
C'est quand même bon.
Alors, le résultat, c'est ça que c'est. Pour la majorité des enfants, en fait, il y a une coexistence entre bonheur, estime de soi et comportement social. Ça, c'est sûr, c'est, il y a une corrélation et ça, c'est tout à fait... ça correspond aux critères de ceux qui n'ont pas de, de TSA ou ceux qui ont des TSA. Ça, c'est cela. C'est pas étonnant chez les enfants qui n'ont pas de TSA. Par contre... c'est plus intéressant de voir ce qu'il y a chez les enfants qui ont une TSA. C'est que l'activité sociale paraît indépendante des autres éléments. Ça, c'est complètement contre-intuitif.
Mais surtout pour eux. Parce
c'est
que
ça,
généralement, bon, l'enfant avec un TSA va avoir de la difficulté à s'associer.
Voilà.
Donc, pour lui, ce n'est pas nécessairement un gage de bonheur
exactement.
Que de s'impliquer avec Pierre-Jean-Jacques.
Exactement. Exactement. Alors que c'est vrai que, bon, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire,
mais c'est vrai
que c'est très intéressant de voir que finalement, ce n'est pas primordial. Les enfants passifs, donc, ou avec une faible activité sociale, sont heureux et ils ont en majorité une bonne estime de soi.
On parle toujours de ceux qui vivent avec un TSA.
Voilà.
OK. On peut le comprendre. Pour les mêmes raisons.
Pour les mêmes raisons.
Ouais.
Donc le bonheur ne dépend pas de l'activité, hein, et l'activité sociale ne fait pas leur bonheur. Je prends la phrase à l'envers, mais c'est que l'activité sociale ne fait pas le bonheur de ses enfants.
Ouais.
Mais le bonheur ne dépend pas non plus de leur comportement social, puisque 32% des enfants avec un TSA n'ont pas de comportement social, alors que le bonheur est moins important chez les enfants présentant un TSA dans ces mêmes conditions. C'est-à-dire que les enfants ayant une faible ou modeste estime de soi aussi sont heureux. C'est-à-dire que l'estime de soi n'est pas nécessaire pour être heureux.
Est-ce que je comprends qu'il est plus facile d'être heureux lorsqu'on vit avec un TSA parce qu'on peut finalement créer son propre monde, on n'est pas obligé d'être constamment diverti ou d'avoir des amis qui nous disent « oui, tu peux venir jouer avec moi ».
Eh bien,
on est autosuffisant?
C'est une très belle hypothèse, c'est à se demander, c'est justement ça. Est-ce qu'en fait, étant donné que l'activité sociale et l'estime de soi n'est pas forcément nécessaire pour être heureux, en tout cas moins nécessaire que chez les enfants, moins sans TSA, est-ce qu'ils ne sont justement pas autosuffisants de cette manière-là un peu?
Par contre, François, à l'âge de 10 ans et à l'âge de 15 ou 17 ans, où là on remarque peut-être davantage... la réaction d'autrui à notre égard, peut-être que là, ça changerait un peu.
C'est possible. C'est très possible. C'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, ce sont des enfants qu'on a vus. Et peut-être qu'en grandissant, Et avec tous les changements qu'il peut y avoir à partir de l'âge de 15 ans, ces notions-là pourraient en effet venir. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une espèce de, comme tu disais, d'autosuffisance en s'estimant soi-même, même si on a une estime de soi qui est par rapport aux autres, bien entendu, puisque c'est un petit peu ça, même si elle n'est pas forcément bonne.
Ouais. Ce qui peut peut-être guider les parents là, de ces enfants-là à savoir un peu quoi fournir ou quoi ne pas fournir ou quelle pression il y a de toujours leur donner des occasions de jouer ou de faire des voyages ou d'aller au camp de jour. Et en même temps, tu veux que ces enfants-là bougent aussi, c'est difficile.
Mais ce que dit justement ce test ou cette étude, c'est que plus... Malgré tout, il y a quand même un tiers des enfants qui sont heureux alors qu'ils ont une mauvaise estime de soi et ils ne sont pas actifs. Mais si on augmente cette estime de soi, ils sont plus heureux. C'est-à-dire qu'à la base, ils sont plus heureux s'ils n'ont pas cette estime de soi et s'ils ne sont pas actifs, contrairement aux autres enfants qui, eux, sont malheureux.
D'accord ?
Et plus ça va, plus on les aide à explorer, plus on les aide à améliorer leur estime de soi, plus ils sont heureux.
Ouais.
Mais au départ, ils partent déjà avec une sorte, entre guillemets, bien entendu, d'avantage.
Ouais. Ou du moins de manière différente d'aller chercher le bonheur. Merci beaucoup, François Baruel.
Je t'en prie.
Drôle de penser, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Jean-Louis Foulquier, bonjour Michel Poulin.
Bonjour, bon lundi.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, sauf que j'ai décidé d'avoir une grippe.
Bon.
Et pour me débarrasser de cet hiver. Alors là, voilà, ça sera fait d'ici une semaine.
Moi, je pense que c'est simplement pour pouvoir avoir le droit de rester à la maison et écouter tout ce qui se dit sur Max Pacioretty.
Non, pas nécessairement.
Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez directeur général de la Fondation En Vue.
Oui, tout à fait. Alors, je le suis encore par intérim.
OK.
On a procédé à mon remplacement parce que je prends une retraite, si vous voulez, de la direction générale de Fondation. Ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Et le beau projet que Canalem nous a offert,
ben oui,
Yann et moi, ça tombait vraiment à point. L'an dernier, on avait fait une série avec justement la Fondation En Vue sur la déficience visuelle. On rencontrait des gens qui sont actifs dans le milieu même avec leur déficience visuelle. Et là, c'est une toute nouvelle formule. On va parler, oui, avec des gens qui sont en déficience visuelle et qui sont des gens très actifs dans notre société, mais on va également faire la promotion, parler de tous les organismes qui œuvrent en déficience visuelle et qui apportent des soutiens. Par exemple, on a eu une entrevue qui va passer bientôt avec les gens de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Oui, des gens dont on n'entend pas souvent parler, c'est important.
Exact. Et ils ont un territoire très, très vaste, on s'entend.
Ouais, ouais.
Donc, comment ils s'organisent? Alors, Mme Poirier va nous raconter tout ça. Alors, on va faire ce genre d'entretien et on aura, bien entendu, des gens qui viennent, les chercheurs de l'Université de Montréal. On va recevoir un chercheur, entre autres, qui consacre sa recherche et sa vie à la déficience visuelle chez les aînés. Alors, il va nous parler de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'avancée, de la basse vision, de la dégénérescence maculaire et ainsi de suite. Donc, ça sera une émission fédérative et très informative.
Mais pour ceux qui ont écouté le show de l'an passé, Michel, la différence, parce que vous alliez quand même assez large.
Oui, mais on avait, je vous dirais, c'était axé sur... On avait en entrevue une personne.
OK, OK.
La personne racontait...
C'est dans la structure...
Oui, exact. Et on avait à l'époque aussi une chronique avec Pauline Martin, qui était porte-parole de la Fondation à l'époque.
Ouais.
Alors, on veut que ce soit beaucoup plus à titre information. Puis, il y a également un bloc d'informations à l'intérieur de l'émission qui donne toutes sortes d'informations sur ce qui se passe dans le milieu. Vous savez, ça évolue très rapidement. La technologie avance très rapidement.
Et en 10 secondes, qui est Diane Félix?
Diane Félix, c'est ma collègue de radio depuis de nombreuses années. Et donc, on travaille ensemble sur ce projet et on a beaucoup de plaisir à être à l'antenne.
Et on ne brise pas une formule gagnante. Michel Poulain, merci beaucoup d'avoir été là. On donne les détails après la pause. J'aurai pas le temps avant.
D'accord. Bonne semaine. Au revoir.
Vous écoutez Accès libre.
Vous l'avez peut-être entendu durant les pauses publicitaires, Michel Poulain avec son regard sur le monde. C'est diffusé sur les ondes de Canal M les mercredis, entre autres, à 19h. Et toutes les émissions de Canal M, incluant Accès libre, sont disponibles en balado-diffusion. Donc, vous allez sur votre plateforme, distributeur de balado, vous abonnez à Accès libre et comme ça, vous l'écoutez quand bon vous semble et vous n'êtes pas obligé de syntoniser si l'heure ne vous convient pas. Et vous dire également que dans les prochaines minutes, on va causer avec Julie Philippon, qui elle est conférencière, elle est auteure du blog et on va parler de nos enfants.
Yeah. I must admit I'm getting tired of sitting on my cloud. Well, heaven's not what I desire. Eternity can wear you out. So I get lost on busy boulevards, forgetting about my mission, drowning in a pair of tempting eyes, cultivate my indecision.
Is that you, angel devil?
Avec Sabbatical sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Julie Philippon, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va très, très bien. Content de vous parler. J'aurais même aimé, mais je ne vous chicane pas, là, j'aurais aimé ça vous voir, que vous soyez en studio, parce que j'ai vraiment... j'aime le sujet que vous nous proposez. J'aime votre implication, vous qui êtes auteur, blogueuse, maman également. On parle d'enfants avec des besoins spéciaux et je pense que c'est le genre de sujet que l'on va aborder à plus d'une reprise durant la saison d'Accès Libre parce que on dirait que bien qu'ils font de leur mieux, les institutions, que ce soit les écoles, les maternelles, les camps de jour, c'est pas toujours évident encore.
Mais vous avez raison, puis ça l'est pas non plus pour les parents.
C'est vrai.
Je pense que c'est tout d'abord pas évident pour personne, mais pour commencer, merci pour les bons mots, puis ben, une autre fois, je viendrai en
studio, oui.
Ça va me faire plaisir. Ben... Je pense qu'on pourrait remettre ça, effectivement, parce qu'il y a tellement de sujets qui sont reliés à cette réalité-là de parents qui représentent au moins un 10% aussi de la clientèle scolaire, donc des familles du Québec.
Souvent, les parents ont une sorte d'anxiété lorsqu'ils ont des enfants à besoins particuliers, mais est-ce que la maternelle est encore une raison d'être anxieuse, étant donné que plusieurs ont peut-être déjà passé par la garderie ou le CPE, donc la glace a été brisée?
Moi, je pense que c'est vraiment encore une bonne source d'anxiété,
ben
et
oui.
Que c'est normal, que ce soit la maternelle ou un changement d'école ou même le passage primaire-secondaire. Oui, c'est une source d'anxiété parce que c'est du nouveau. Puis parce que si on fait allusion, mettons, au préscolaire, là, la maternelle, la CPE, bien, les enfants, ils sont comme juste des enfants, hein, tant qu'ils ne rentrent pas dans le système scolaire. À partir du moment où est-ce qu'ils rentrent dans le système scolaire, ben, il y a des objectifs auxquels ils doivent répondre, il y a des évaluations, des bulletins, même en maternelle. Donc, est-ce que mon enfant va être adéquat? Est-ce que mon enfant est prêt? Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que ça va bien fonctionner?
Ouais.
Autant notre anxiété à nous comme parents que aussi pour les enfants parce que c'est nouveau, c'est un nouveau milieu, un nouvel environnement. C'est pas la même chose aussi. Si vous voyez comment les petites maternelles sont fatiguées les premières journées, les premières semaines, c'est gros aussi pour
ouais.
C'est un grand, grand changement.
Parlons de l'intégration de ce grand changement, justement, lorsqu'on
oui.
entre en maternelle, que ce soit 4 ans ou 5 ans, bon, disons plutôt 5 ans, là, les outils qui peuvent aider les enfants?
Il y a les outils, puis il y a aussi peut-être nos actions ou comment nous, on peut agir comme parents. L'image aussi qu'on peut projeter de la rentrée à l'école, de ce qui s'en vient,
mm-hmm.
c'est... je pense que si nous-mêmes, on est très anxieux, anxieux, puis qu'on parle peut-être en mal de l'école ou qu'on critique à chaque fois qu'on a un message à l'école, bien, on va peut-être faire une mauvaise image pour notre propre enfant, puis ça va lui nuire. Mais si on parle de trucs, ça peut être de simplement aussi aller visiter l'école, aller au parc, en parler de façon positive. Puis sinon, chaque école ou commission scolaire, tout ça, a parfois une petite fiche sur laquelle on peut écrire « Parlez-moi de votre enfant ». Des fois, c'est réservé à la rencontre de parents, des fois, c'est avant que l'école commence, des fois, c'est un peu plus tard aussi, dans les premières communications, que ça arrive plus fin septembre ou en octobre. Mais c'est que je pense que vous voulez peut-être parler d'un outil qui s'appelle « Je vous présente mon enfant » que Réseau Bulle a fait.
Entre autres.
Puis j'en ai créé un aussi l'année dernière pour répondre un peu plus à mes besoins que moi je voyais. Mais je pense que si on est transparent comme parent, mais comme enseignant aussi, vous savez, j'ai les deux chapeaux, puis qu'on nomme les vraies affaires, qu'on dit les choses en n'ayant pas peur que notre enfant soit pénalisé pour ça, mais en le voyant plutôt que ça va peut-être aider l'enseignant ou les autres adultes qui l'entourent à mieux comprendre pourquoi il agit comme ça dans telle situation. Lui, il est très, très timide ou il a peur de telle chose, mais peut-être qu'il a vécu un traumatisme aussi à un moment dans sa vie. Ou si on est capable de mieux comprendre l'enfant, comment il fonctionne, c'est quoi ses références, bien, les adultes autour de lui, ça va être plus facile pour mieux répondre à ses besoins. Puis le début de l'année scolaire, ou bien non, le début d'une nouvelle session d'activité, ou le camp de jour, les camps de vacances, bien, c'est toujours un bon moment pour partager de l'information. Puis on peut le faire de façon organisée ou pas. Dernièrement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé ou ils m'ont envoyé des photos et m'ont dit hey, « Julie, il y a justement un prof qui m'a dit, ben, écrivez-moi donc peut-être une page sur votre enfant, puis ça va peut-être m'aider, moi, à mieux connaître ou à mettre les bons outils en place ou à avoir des bonnes interventions ciblées pour lui. Parce qu'on peut avoir 12 000 trucs, mais s'ils ne sont pas pour les bonnes choses, ben ils vont pas rien donner.
Est-ce que c'est généralisé? Je pose la question parce qu'il y a 2-3 semaines, j'ai été invité à discuter dans une école avec le personnel d'enfants qui avaient des besoins particuliers en déficience visuelle. Et on me disait, ben nous, on a déjà eu une. Et on prenait à témoin une élève qui a aujourd'hui 30 ans. Et je leur disais, ben si c'est ça votre exemple et que vous pouvez, disons, faire référence à quelque chose qui a eu lieu il y a 12 ans, ça a tellement changé. Mais j'avais l'impression qu'on me disait « Non, non, Luc, on sait comment faire, on a déjà eu quelqu'un il y a 12 ans. » Est-ce que l'exemple que vous avez décrit est fabuleux, mais est-ce que c'est généralisé d'avoir une certaine vulnérabilité à l'égard de l'enfant qui arrive?
Bien, là, j'ai tellement de chapeaux différents qui ont le goût de vous répondre, parce que vous savez, je suis maman, mes enfants viennent de faire sa première rentrée au secondaire, l'autre l'année dernière, mais ils viennent avec des besoins particuliers. D'un côté, comme parent, on ne veut pas être fatigant. Moi, comme parent prof, en plus, des fois, on se dit « Ah, je ne veux pas être tannante ». Puis en même temps, d'autres fois, quand on l'est peut-être pas assez, il y a des choses qui échappent. Ce n'est pas dans la mauvaise volonté.
Non.
Mais je pense effectivement que de se fier à une expérience d'il y a 12 ans, ça a tellement déjà beaucoup changé. Je pense que ça ramène à un autre problème qui sera peut-être un sujet, mais vous savez, entre, mettons, l'école et la maison, il y a comme un grand vide, il y a un manque de reconnaissance, il y a aussi une peur. Les parents ont peur d'être jugés par les enseignants ont peur d'être jugés par les parents, puis alors qu'on devrait donner la main et dire « Hey, toi et moi, là, on veut la même chose, on veut que cet enfant-là se développe au mieux, qu'il vive des réussites, ça ne veut pas dire des 100%, mais qu'il vive des succès, qu'il soit bien. » Puis pour plein de raisons, on ne peut pas non plus reprocher au personnel enseignant ou non-enseignant qui entoure aux enfants d'être négligent ou de ne pas vouloir assez parce que leur tâche est dure et de plus en plus dure. Sauf que ce que nous, comme parents, on peut être proactif sans exagérer. Puis si on le fait, puis qu'on le fait de façon constructive, bien en plus, on va pouvoir utiliser cette chose-là après d'une fois à l'autre. Parce que vous savez, l'enfant, quand il commence en maternelle, bon, on le présente peut-être une fois, mais quand il est rendu à 12 ans, 15 ans, bien, il y en a eu beaucoup, beaucoup des profs, il y en a eu beaucoup des fois des diagnostics qui sont arrivés, des thérapies, des spécialistes. Puis, en tout cas, moi, je ne me rappelle plus de tout. Des fois, en plus, je me sens mal parce que, ben non, je ne me rappelle plus à quel âge j'ai fait son premier papa ou qu'il a tenu le ciseau correctement. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant de nous, comme parents, d'utiliser un outil, que ce soit celui que vous créez ou pas, mais c'est de le conserver d'une année à l'autre. Puis, si on peut le faire avec la technologie, puis le sauvegarder, mais on va juste ajouter des nouvelles informations de la dernière année. On peut aussi... Ah, excusez-moi.
Non, allez-y. Terminé.
Ah, ben, en fait, je me disais aussi, c'est qu'il y a des fois des choses qui sont peut-être plus pertinentes non plus rendues à un certain moment ou qu'on peut choisir qu'on ne donne pas, mettons, peut-être qu'un professeur d'éducation physique n'a pas besoin de savoir telle chose, alors que dans une autre situation, ça va être vraiment pertinent que lui soit au courant. On peut choisir aussi des fois telle information on donne à telle personne.
Comment recevoir un plan spécifique, Julie, avec... disons, sans trop de méfiance, mais tout en restant vigilant, parce qu'il y a des parents, des fois, qui disent « il me semble que je connais mieux mon enfant qu'eux », et d'autres, au contraire, où on va peut-être se plaindre que les professeurs ne s'impliquent pas assez. Et donc, comment trouver l'équilibre?
Vous avez une super bonne question. Vous savez, je pense que c'est ce qui m'anime un peu depuis plusieurs années, puis c'est ce qui fait peut-être aussi un peu ma différence, parce que comme je porte les deux chapeaux, j'ai travaillé en milieu scolaire pendant 23 ans, je suis aussi, mais j'ai démissionné comme enseignante, mais je fais encore des interventions. Je pense que c'est le défi.
Ouais.
Puis en même temps, c'est un beau défi. Si on se rappelle de nos rôles, moi, comme parent, là, peu importe ce que tout le monde va dire, que ce soit vous que j'estime beaucoup, le pédopsychiatre qui suit mon enfant, n'importe qui, ou quelqu'un dans un journal à scandale qui titre avec des gros choses pour faire des clics, mais que des fois c'est vide, ben moi, là, Julie, je suis la spécialiste de mes enfants. Moi, j'en ai deux, c'est Félix et Camille. Et les enseignants qu'ils vont avoir cette année, eux, ils vont être les spécialistes de comment enseigner aux enfants qui sont les miens. Fait qu'on a un travail d'équipe, on a chacun nos rôles, puis c'est un peu, tu sais, dans une famille, en général, il y a deux parents, que ce soit un papa et une maman, deux papas, ou deux mamans, peu importe le format, puis ce que maman va dire, c'est pas comme papa, mais ça veut dire que papa a tort.
C'est sûr.
Parce que vous comprenez ce que je veux dire? On va comme travailler de façon parallèle. Fait que si, c'est clair que moi, comme parent, ben j'irai pas dire au prof comment enseigner. Mais comme parent, je peux lui dire que mon enfant va peut-être mieux réagir de telle façon, qu'on a fait tel test, qu'elles vont fonctionner. Vous parlez tantôt d'un problème visuel. Mm-hmm. Mon enfant est dyspraxique, visuel à tous les niveaux, et puis ça y prend un plan incliné. Ça y prend aussi idéalement comme un chevalet pour que les textes soient à la hauteur de ses yeux.
Ouais.
Si on ne le fait pas, elle n'est pas capable de lire. Bon, elle le dit encore, mais les lettres bougent. Mais si le personnel enseignant pousse ça de côté, bien là, il recule.
C'est sûr.
Il recule par rapport.
C'est sûr.
En même temps, moi, comme ben, une fois quand je suis enseignante, je disais aussi aux parents, vous savez, on a toute notre recette de spaghetti. Puis la plupart du temps, c'est ça que la famille préfère. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on va mettre dans la sauce de spaghetti, mais laissez-moi aussi comme prof faire ma sauce à spaghetti. C'est peut-être un peu contradictoire, mais je pense que c'est un coup des deux. On a des rôles, puis on doit pas avoir trop peur, aller de l'avant, puis on est important tous les deux.
Mais j'entends là aussi, et ça, c'est pas toujours évident, c'est que les deux personnes soient, disons, lâche prise et ne soient pas méfiants de l'autre, ne se sentent pas jugés. Et vous le disiez en début d'entretien, et on va clore là-dessus, mais que malheureusement, souvent, un des obstacles, c'est que l'un et l'autre se sentent jugés par l'un et l'autre. Donc, c'est peut-être justement d'arriver à briser ce risque de mur entre les deux. Maman Bouh, MAMANBOOH.com pour en savoir davantage sur la pensée de Julie Philippon, PHILIPPON. Merci beaucoup, Julie, à bientôt.
Merci, bonne rentrée à tout le monde.
Julie parlait de scandale tantôt. Ben, on a vu ça sur le Huffington Post la semaine dernière. Un enfant de 12 ans qui était appelé à devoir vivre dans un CHSLD. Moi, je trouve ça scandaleux. On va en parler avec maman après Backstabbers. Une reprise de Seal, ça c'est originellement des OJs, pièce des années 70, c'était tellement bon et encore une fois, on peut dire que la reprise est quand même pas mal efficace. On essaie toujours d'entrer en contact avec Isabelle Poitras-Morneau, elle qui est maman d'un garçon, disons, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, mais qui a beaucoup de déficiences associées. On parle d'épilepsie, on parle de difficultés visuelles. Ce qui fait que, finalement, malheureusement pour Isabelle et Gabriel, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus le garder à la maison, lui donner les soins appropriés. Ça a pris quand même une certaine confrontation de la part de proches qui lui disaient « Isabelle, il faut que tu penses à toi » et tout et tout. Donc, elle s'est dit « Parfait, je vais faire le saut. » Elle, qui demeure aux Escoumins, parle à sa régie régionale de la santé, au centre interuniversitaire et tout et tout. On n'a aucune facilité dans la Côte-Nord pour aider les enfants qui sont avec des déficiences associées. Donc, la seule solution, le mettre dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Là où les gens, malheureusement pour eux, sont obligés d'enlever leur dentier vers 5h30 après avoir mangé du manger mou et digéré le Jell-O vert. L'enfant de 12 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans un environnement comme celui-là? Ce qui fait qu'Isabelle disait « Ben non, il n'y en a pas question, moi je veux le garder, je veux le garder. » Et là, elle s'est épanchée, a voulu faire connaître cette situation-là, entre autres à Stéphane Tremblay au Huffington Post. Heureusement, il a écrit sur le sujet. Il y a des gens du côté du Saguenay qui ont dit « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis capable de recevoir cet enfant-là. Je vais le recevoir. J'ai une maison de répit, une maison qui permet à certains enfants, un peu comme Gabriel, de vivre une vie la plus normale possible. » Isabelle est toute contente. Elle dit « Parfait ». Elle appelle à son Sius, a dit « J'ai trouvé une maison, on l'envoie chez Véronique au Saguenay. » Eux de dire « Ben non, s'il s'en va au Saguenay, nous on paye pas. » Alors elle appelle au Sius du Saguenay en disant « Bon, j'envoie mon petit chez vous. » « Ben non, son adresse est aux Escoumins. Nous, c'est pas sur notre territoire, on paye pas. » Ce qui fait qu'on a la solution, on a un enfant avec un besoin, mais on n'a personne pour assumer la facture parce que personne, je ne sais pas si c'est question de statistiques, si c'est moins payant pour eux d'aider un enfant qui s'en va dans un autre territoire, bien qu'il soit sous leur responsabilité, mais ben, malheureusement. Alors, on voulait aujourd'hui savoir ben, ce qu'il y en est parce que depuis mercredi dernier, l'histoire a quand même fait un peu de millage. Elle est supposée avoir rencontrer le député du coin, je crois que c'est Stéphane Bédard du Parti québécois, donc un parti dans l'opposition. Alors, a-t-elle l'attention de la ministre déléguée Mme Charlebois ou peut-être de M. Barrette? Est-ce que cette situation-là tombe entre deux chaises? C'est difficile à dire. Donc, c'est pourquoi on voulait causer avec Isabelle Poitras-Morneau. Peut-être, tiens, Maurice, nous mettre, un petit solo de guitare, un petit quelque chose, pendant qu'on continue d'essayer de faire la communication. Et, tiens, voilà, un petit peu de flamenco, là. Monsieur Bolduc, pas de veine?
Non, boîte vocale.
Bon, alors ce sera pour une autre fois, mais on souhaite vraiment bonne chance à Isabelle et à Gabriel, et souhaitons que, non seulement la bonne entente, mais comment on traduirait, Christiane Campagna, common sense, la logique?
Le bon sens? Québécois, on dit le gros bon sens.
Le gros bon sens prévale quand même.
Espérons-le.
Hey, Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir me secourir. J'avais l'air d'un gars qui avait besoin d'aide, hein?
Ça fait plaisir d'être là.
Je suis payé en double dans ce temps-là, dans des shows comme ça? Écoute, je sais même pas, tu viens d'entrer
ben,
comme
fait,
un coup de vent. Tu veux me parler de quoi?
Tant qu'à être là, ben oui. Je voulais rappeler aux gens qu'il y a différentes façons d'écouter Canal M.
Oui.
Et de réécouter cette émission s'il y a des sujets qui vous ont plu particulièrement.
Il en reste deux.
Accès libre, en plus, fait partie des émissions dont on découpe les entrevues. Et parce que sur notre site web, on a des fils thématiques, des fils audio. Donc, si vous vous intéressez plus particulièrement aux sujets qui touchent le handicap visuel, aux sujets qui touchent plus la déficience intellectuelle, on a différents sujets thématiques qui peuvent être écoutés comme ça en fil. Vous pouvez écouter toutes les entrevues sur ces sujets-là.
Ah oui, hein?
En plus, bon, évidemment, quand on arrive sur la page, on peut écouter en direct, mais on peut retourner sur la page de chaque émission, sauf quelques-unes qui, pour des raisons de droit d'auteur, on peut quand on lit des livres ou quand les émissions sont entièrement musicales. Mais sinon, elles sont toutes disponibles en différé et plusieurs aussi sont disponibles sur iTunes et c'est le cas d'Accès Libre.
Yay! Moi, je l'écoutais en balado
Lorsque Benoît était là.
Oui, tout à fait.
Visitez nos médias sociaux, Twitter, Facebook. On est là, autant Canal M que Vous
et
Voix.
Oui, et les non-câblés là, qui ne peuvent pas nécessairement nous écouter et qui n'ont pas un ordi tout près, TuneIn, entre autres, l'option. Vous allez sur TuneIn, on vous demande quelle chaîne voulez-vous écouter. Vous tapez Canal M, c'est réglé.
Nous sommes aussi sur Radio Player Canada.
Radio Player Canada!
Oui, monsieur.
Hé, hey, Madame Campagne. Merci beaucoup d'être venu nous partager tout ça. Maurice Bolduc, merci beaucoup d'avoir fait autant de téléphones.
Plaisir.
Vous êtes payé au numéro que vous avez composé, vous?
Au chiffre, ouais.
Ouais, alors vous allez être riche. Qu'est-ce qui s'en vient à 13h? Je sais pas.
Mais ça dépend à quelle heure vous nous écoutez.
Mais non, mais...
Cependant.
C'est de la musique non-stop.
C'est de la musique sans interruption. Merci. À lundi, tout le monde.